Il est 22h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Ce matin, douche froide, mail de la principale du collège qui dit il n'y aura pas de rentrée pour aucun élève à Sèvres pour les 4e et les 3e.
Tous les enfants devront retourner à l'école à partir de lundi prochain. C'est ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron. Les paroles et les actes. On verra que c'est plus facile à dire qu'à faire. La joie des restaurateurs d'Île-de-France. Ça y est, ils peuvent de nouveau accueillir leurs clients à l'intérieur.
D'être à l'intérieur plutôt que d'être sur une terrasse avec les voitures qui passent, les pots d'échappement, etc. C'est beaucoup mieux pour nous.
Et les frontières rouvrent-elles aussi? Nous serons en Belgique dans ce journal. La Belgique qui accueille avec joie le retour des Français. Les soignants seront de nouveau dans la rue demain. Ils veulent un vrai salaire, pas une médaille. Que se passe-t-il à Dijon? Des affrontements depuis 3 jours dans cette ville. Des expéditions punitives menées par la communauté tchétchène. Comme un avertissement pour Édouard Balladur, ses anciens proches condamnés à de la prison ferme dans le volet financier de l'affaire Karachi. Et puis ça fait aussi partie de la phase 3 du déconfinement, la réouverture des salles de sport.
Dur. Après 3 mois de pause, je crois que c'est... Okay. Ça fait mal, là.
Ça fait plaisir de revenir dans une salle.
On a fait quelques sessions en extérieur, mais bon, là, c'est mieux, on est mieux ici.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,49% à 4815 points. Didier Hamot de boursier.com nous dira comment s'est passée cette journée sur les places financières. Encore beaucoup de pluie demain sur tout le pays. Ne sortez surtout pas sans votre parapluie. Vous pourriez le regretter et ne manquez surtout pas non plus les prévisions détaillées d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, votre rendez-vous avec l'Interview Éco. Ce soir, Carole Ferry reçoit Benoît Sineau, le PDG de Wicar. Les demandes de location de voitures entre particuliers qui ont bondi de 60% par rapport à la même période l'an dernier.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on croyait que l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir allait simplifier les choses, pour les parents comme pour les enseignants, puisque le chef de l'État a annoncé la réouverture de toutes les crèches et de toutes les écoles et collèges à partir de lundi prochain. Et cette fois, fini le volontariat. En clair, tout le monde y retourne avec des mesures spécifiques, évidemment, mais un protocole nettement allégé par rapport à ces dernières semaines. Sauf que, eh bien, dans les faits, accueillir tout le monde, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. C'est même pas gagné du tout, Victor Dolande.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Le protocole sanitaire, même allégé, qui maintient 1 mètre latéral de distance entre chaque enfant, place les directeurs d'école et les proviseurs de collège face à un nouveau casse-tête. Exemple, dans un immense collège à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, 400 élèves sur 1000 ont pu reprendre depuis plusieurs semaines, en petits groupes, quelques jours par semaine. Hier soir, Fabrice a regardé l'allocution d'Emmanuel Macron avec sa fille qui est en 4e. Elle n'a plus mis les pieds au collège depuis le 13 mars dernier. La suite, c'est son père qui la raconte.
Elle était très heureuse, effectivement, à l'idée de reprendre à partir du 22. Et ce matin, douche froide, mail de la principale du collège qui dit il n'y aura pas de rentrée pour aucun élève à Sèvres pour les 4e et les 3e. On joue au yo-yo émotionnel avec nos enfants là, qui sont, on leur dit tu rentres à l'école, tu rentres plus à l'école. Je trouve ça assez dingue qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon entre le gouvernement et l'éducation nationale.
Et ce yo-yo émotionnel de très nombreux élèves et parents le vivent depuis ce matin. Les mails de directeurs et proviseurs avaient comme objet prudence. Après l'allocution du président, son légion, faire entrer une trentaine d'élèves dans une classe de 50 mètres carrés avec ce mètre de distance, c'est tout simplement impossible, me confiait une directrice d'école. On devrait connaître demain soir le protocole sanitaire amendé et selon les derniers arbitrages, ce mètre de distance latérale pourrait tout simplement disparaître en maternelle uniquement pour simplifier l'équation et la tâche des directeurs.
Les précisions de Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Alors si ça coince encore du côté des écoles, dans les bars et dans les restaurants, on a accueilli avec un immense soulagement hier soir l'annonce du passage en vert dans la région Île-de-France, synonyme de réouverture des salles et plus seulement des terrasses, et ce une semaine plus tôt que prévu. Alors on imagine l'impatience de tous ces professionnels, même si pour cette première journée, les clients ne se sont pas vraiment bousculés pour entrer, Jean-Jacques Herry.
Exactement, la réouverture des salles de restaurant n'était pas encore très visible ce midi. La faute à un grand ciel bleu et un joli soleil printanier, m'expliquait Loïc, le barman du Relais Odéo.
C'est très calme parce que comme il y a du soleil, les gens préfèrent quand même se mettre en terrasse.
On a vu les serveurs s'activer, mais presque uniquement en terrasse où les tables étaient bien remplies. La plupart du temps, le personnel ne faisait que traverser une salle à manger quasi vide. Romain, serveur, faisait les comptes derrière son masque.
Moi, pour l'instant, dans mon rang à moi, à l'intérieur, j'ai fait 3 couverts.
Au total, seulement une douzaine de couverts à l'intérieur. D'ailleurs, parmi les quelques rares clientes qui avaient résisté à l'appel du soleil pour lui préférer les ombres et l'intimité de la salle à manger, J'ai rencontré Corinne, Colette et Naomi. Les trois vieilles amies ne s'étaient pas revues depuis le début du confinement. Elles savouraient l'instant et leur nem sauce piquante.
On est ravis.
C'est beaucoup mieux pour nous d'être à l'intérieur plutôt que d'être sur une terrasse avec les voitures qui passent, avec les pots d'échappement, etc. Et je pense qu'il est plus sain compte tenu des mesures de sécurité où tout est nettoyé sans arrêt.
On est vieux, on prend ça en compte.
Voilà, reprise timide donc pour le moment et pas pour tout le monde puisqu'un certain nombre de restaurateurs ont été pris de court par les annonces hier d'Emmanuel Macron, notamment ceux qui n'avaient pas de terrasse. Impossible pour eux de rouvrir immédiatement dans l'urgence, tout simplement parce que beaucoup n'avaient aucun produit frais en stock. Pour eux, il faudra encore attendre quelques jours.
Le reportage de Jean-Jacques Herry. Notez qu'à partir de demain, fini l'attestation employeur aux heures de pointe dans les transports en commun. En revanche, le port du masque est toujours obligatoire et les gestes barrières, bien sûr, restent en vigueur. La réouverture des frontières internes à l'Union européenne. Depuis ce matin, les déplacements entre pays sont de nouveau possibles, quasiment partout dans l'espace Schengen, avec encore quand même quelques restrictions avec certains pays, mais qui devraient être prochainement levées, comme avec l'Espagne ou avec la Grèce. Et je vous invite à aller sur notre site internet europe1.fr où tout ça est très bien détaillé. Pas de problème en tout cas si vous voulez vous rendre en Belgique par exemple. C'est ce que vous avez fait, Lionel Gougelot. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Nord et visiblement, vous n'étiez pas le seul à faire les courses du côté de Menin, près de Tourcoing. Grosse affluence et des Français accueillis à bras ouverts.
Mélissa attendait avec impatience l'ouverture de la frontière parce que dans sa pâtisserie-chocolaterie de Menin, la clientèle française représente
entre 80 et 85% de chiffre d'affaires quand même, des gens qu'on côtoie régulièrement et qu'on revoit et ça fait du bien.
Pendant toute la durée de la crise, Jonathan, gérant d'une boutique de tabac, avait été contraint de mettre la clé sous la porte.
77 jours sans avoir un sou, on va dire. Donc on est bien content que c'est rouvert la frontière. Nous, on a besoin des Français pour vivre et eux, ils sont contents de venir en Belgique parce que c'est moins cher.
La preuve, le sac de Martine, rempli de pots de tabac et de cartouches de cigarettes.
60 euros la cartouche ici, 90 en France. Il y a 30 euros de différence.
Cette habitante de la région lilloise avait hâte de retrouver ses petites habitudes.
Et on est connus, hein. Pourtant on vient qu'une fois par mois, mais ils nous ont reconnus, il n'y a pas de problème. Hein.
Au comptoir de sa brasserie, Cindy, elle aussi a retrouvé avec soulagement ses habitués français, sauveurs des commerces belges.
C'est toujours le plat qui est fermé parce que voilà, ça ne marchait plus comme avant. Quoi. Les gens, ça va, on croyait qu'on... Ils allaient avoir peur ou quoi? Mais non, en fait, ça va, ça revit, ça rebouge, c'est très bien.
Très bien pour le commerce, mais aussi parce qu'ici, sur la frontière, on vit un peu l'un chez l'autre et on n'aime pas trop les barrières. À Menin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et alors que la pandémie se calme en Europe, inquiétude sur l'apparition d'une deuxième vague, en particulier en Chine. À Pékin, un foyer est apparu dans un immense marché alimentaire. C'est même le plus gros marché d'Asie qui a été immédiatement fermé. Déjà plus de 100 cas confirmés. Et puis en Inde, plus de 15 millions de personnes vont être reconfinées. Les autorités sanitaires américaines retirent quant à elles l'autorisation d'utiliser la chloroquine et l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Des molécules pourtant défendues pendant un moment par le président Donald Trump. Et bien pour l'agence américaine de médicaments, il n'est pas raisonnable de croire que les bénéfices connus et potentiels de ces produits dépassent leurs risques connus et potentiels. Pendant le confinement, ils ont été nos héros. Les soignants seront de nouveau dans la rue demain. La promesse de médailles ou d'un 14 juillet dédié ne leur suffisent pas. Hier soir, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur l'hôpital dans son intervention, alors que le Ségur de la santé est toujours en cours et que le sujet est ultra sensible. Demain donc, médecins, infirmiers, aides-soignants ont l'intention de faire de nouveau entendre leur voix. 12 syndicats et organisations appellent à manifester dans toute la France. Et dans la rue, demain, il y aura notamment Yasmina. Elle est infirmière à Saint-Denis, membre du collectif Interurgence.
Les applaudissements, c'était intéressant et c'était une forme de solidarité qui était importante sur le moment. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on transforme ça en quelque chose de concret et on transforme ça en du soutien dans la rue. Ce qu'on veut et ce qu'on exige depuis vraiment un an, c'est de pouvoir avoir des conditions d'accueil et de travail qui soient dignes à la fois pour les patients mais aussi pour les soignants. Qu'on arrête cette maltraitance, que ce soit une maltraitance pour les soignants et une maltraitance pour les patients, parce que les conditions de travail ne sont pas acceptables. Ce qu'on demande en concret, c'est la même chose, c'est-à-dire une revalorisation salariale de 300 euros net par mois pour l'ensemble des hospitaliers. Plus de lits, plus d'effectifs. Je pense qu'on est tous épuisés. Il y a une fatigue psychologique aussi, parce que ça a été très dur à vivre et ça a beaucoup interrogé sur le sens de nos métiers. Après un an, après la crise Covid, après tout ça, on est toujours sur des revalorisations qui sont ponctuelles, des primes ou des médailles ou des choses honorifiques, alors qu'en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est le fond, avoir une reconnaissance de notre travail, de nos métiers en soi.
Yasmina, infirmière en banlieue parisienne, elle était avec Caroline Baudry d'Europe 1. Dans un tout petit instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et la ville de Dijon sous tension après des expéditions punitives menées par la communauté tchétchène. A tout de suite.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal avec cette question. Que se passe-t-il en ce moment à Dijon, ville habituellement paisible? Des renforts ont été envoyés sur place aujourd'hui, une centaine de policiers et de gendarmes après 3 nuits d'affrontements. Des expéditions punitives menées par des dizaines d'individus de la communauté tchétchène, Guillaume Bier.
Oui, depuis vendredi soir, la ville a été le théâtre de multiples violences en représailles après l'agression la semaine dernière d'un adolescent de 16 ans d'origine tchétchène qui aurait été passé à tabac et menacé d'une arme à feu par des membres de la communauté maghrébine. En riposte, donc, des dizaines de Tchétchènes, dont certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres, se sont regroupés à Dijon pour mener une série d'opérations punitives. Un bar à chicha saccagé, des coups de feu tirés, une voiture qui fonce sur eux avant de faire les tonneaux. Ce sont en résumé quelques-uns des épisodes spectaculaires qui se sont déroulés, effrayant les Dijonnais qui n'ont jamais assisté à de telles scènes, confirme le maire François Rebsamen.
Ils sont sidérés parce que plus d'une centaine de Tchétchènes, d'une cinquantaine de voitures, ont envahi des quartiers de la ville pour pratiquer des règlements de compte, des vengeances, une sorte de loi du talion. C'est totalement inédit et j'ajoute immédiatement inacceptable.
Résultat, des renforts de sécurité en nombre sont déployés, CRS, gendarmes mobiles et des unités de BAC supplémentaires pour tenter de ramener le calme et éviter de nouvelles violences.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Un buste du général de Gaulle vandalisé dans le nord à Aumont. La tête a été recouverte de peinture fluo orange et le piédestal tagué avec l'inscription esclavagiste. Le maire dénonce un amalgame dans le cadre du débat médiatique autour du racisme. Il a porté plainte. Cette dégradation intervient en tout cas quelques heures après la phrase d'Emmanuel Macron. La République n'effacera aucun nom et ne déboulonnera aucune statue. Et maintenant, cette affaire qui dure depuis 25 ans, l'affaire Karachi, du nom de cette ville du Pakistan où avaient été signés des contrats d'armement. À l'époque, Édouard Philippe était Premier ministre. Eh bien, 6 de ses proches ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal de Paris pour avoir encaissé des commissions illégales. Et pour la première fois, Salomé Legrand, la justice fait le lien entre ces fonds et le financement de la campagne présidentielle de 1995.
Oui, pour le tribunal, il y a bien eu des rétrocommissions en marge de ces contrats et certaines ont été versées directement sur les comptes de campagne du Premier ministre d'alors. En énonçant le jugement, la présidente a épinglé chacun des 6 prévenus, qu'ils soient chefs d'entreprise ou dans les cabinets ministériels de l'époque. Des hauts fonctionnaires qui se seraient entendus pour préserver leur poste ou ménager leur carrière. Le jugement étrille un réseau d'intermédiaires, dont Ziad Takieddine, totalement inutile et des commissions exorbitantes. Les juges estiment qu'au moins 6,5 millions de francs ont atterri sur les comptes de campagne de Balladur et que tous les prévenus, je cite, connaissaient parfaitement l'origine frauduleuse des fonds, de quoi constituer des atteintes d'une gravité exceptionnelle au fonctionnement de la vie économique et à la confiance dans la vie publique, répète la présidente, d'où des peines de prison ferme pour les 6 prévenus qui ont déjà annoncé leur volonté de faire appel. Mais ce jugement est aussi un avertissement pour François Léotard et Édouard Balladur, 91 ans, qui eux comparaîtront prochainement devant la Cour de justice de la République.
Les précisions de Salomé Legrand. Il y a 1 an et demi, une explosion de gaz faisait 4 morts rue Trévise à Paris. Une expertise définitive vient de confirmer la mise en cause de la ville. Selon ce rapport, l'explosion aurait pu être évitée si la cause de l'affaissement du trottoir devant l'immeuble où elle s'est produite avait été recherchée en amont par la municipalité. On parlait tout à l'heure de ce qui changeait en France avec la phase 3 du déconfinement pour ceux qui passent en vert. On peut effectivement de nouveau aller au restaurant en région parisienne et on peut aussi de nouveau retourner faire du sport en salle. Des salles de nouveau autorisées depuis ce matin à rouvrir et certaines n'ont pas traîné. Reportage à Courbevoie en banlieue parisienne, signé Cyril de la Morinerie.
Thomas et Gauthier sont en plein effort. Ces 2 trentenaires soulèvent à tour de rôle une barre de musculation de plus de 60 kilos.
Dur, dur. Après 3 mois de pause, je crois que c'est... ça fait mal là.
Ça fait plaisir de revenir dans une salle.
On a fait quelques sessions en extérieur, mais bon là c'est mieux, on est mieux ici.
Un peu plus loin, sur un tapis de course, Patrick essaie de reprendre son souffle. Cet habitant du quartier était l'un des premiers à franchir la porte de la salle ce matin.
Vu qu'on est passé en zone verte, donc j'ai dit bon, vu que j'habite à côté, j'ai dit, je veux voir si la salle est ouverte. Et j'ai eu cette chance-là que ça soit ouvert. Et j'ai pris rendez-vous et je suis venu quoi.
C'est dur la reprise ?
Oh, très dur, mais ça fait du bien.
Afin d'ouvrir aujourd'hui, Stéphane le gérant a anticipé les annonces du président de la République. Il a mobilisé la semaine dernière sa famille pour réagencer la salle de sport.
On a bougé pas mal de matériel. Les tapis de course, on les a bien écartés, nos elliptiques aussi, les vélos, enfin voilà, pour que tout soit bien aux normes.
Pour l'instant, il n'y a pas foule, mais le téléphone n'a pas arrêté de sonner aujourd'hui. Au bout du fil, des adhérents souhaitant effectuer des réservations. Les cours collectifs reprendront en effet dès demain.
Le reportage de Cyril de la Morinerie. La météo, c'est avec vous Anissa Haddadi, une météo bien humide. Hein.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, Isabelle. C'est vrai que demain, le parapluie sera l'accessoire obligatoire. Alors d'abord, en début de journée, avec sur la façade atlantique des averses très fréquentes, assez nombreuses, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, personne ne sera épargné. Sur les reliefs alpins aussi, demain matin, nous aurons pas mal d'averses. Partout ailleurs, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, mais vous restez au sec. Et puis dans l'après-midi, au fil des heures, les averses vont se généraliser avec sur quasiment tout le pays, sauf la Corse et le littoral atlantique, des orages, parfois même assez violents. Le Mistral, il se calme dans le sud, mais attention, le vent d'ouest se renforce sur le golfe du Lion, les côtes varoises et la Corse. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 7 degrés à Rodez, 10 à Limoges et Montluçon, 12 à Poitiers et Épinal, 13 à Paris, 15 à La Rochelle et Lyon, 18 à Marseille. Et puis dans l'après-midi, il fait beaucoup plus frais sur l'ouest avec la façade atlantique et seulement 17 à 23 degrés et 23 à 27 degrés sur le reste du pays.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, c'est la bourse avec Didier Hamo de boursier.com, puis l'invité éco, Carole Ferry, reçoit ce soir le PDG de Wicar. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1. Je voulais vous donner cette dernière information qui nous parvient à l'instant. Le report du second tour des municipales en Guyane, report en raison de l'épidémie de coronavirus qui n'est toujours pas maîtrisée dans ce département. Comme tous les soirs, c'est l'heure maintenant de la bourse et c'est avec vous Didier Hamo, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui commence la semaine en hausse dans une ambiance toujours instable.
Oui, très nerveux avec Wall Street qui perdait beaucoup de terrain, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. À l'ouverture, le Dow Jones perdait même 3%. Et puis, ça s'est calmé, c'est remonté par la suite pour terminer finalement en hausse. Le Dow Jones regagne 0,62%, 25 763 points. Le Nasdaq prend même 1,43%, 9 726 points. C'est évidemment l'évolution de la situation sanitaire internationale qui inquiète les investisseurs. Le reconfinement d'une partie de la ville de Pékin ce week-end a inquiété les marchés, qui ont tenté de se rassurer par la suite avec des nouvelles un petit peu plus positives du côté des États-Unis. Puis il y a les valeurs de technologie qui tirent la cote. Ce soir, Tesla remonte de 6%, 991 dollars après un rebond spectaculaire de 150% de ses ventes en Chine au mois de mai. Apple aussi reprend 1,2%. Et puis toutes les valeurs de technologie gagnent du terrain à l'image d'Intel, plus 1,3%. Amazon, plus 1%. Microsoft, plus 0,6%. Le pétrole aussi rebondit un petit peu, plus 1,8%. Le Brent est à 39,75$. Le WTI américain, 37$ ce soir. Sur les devises, l'euro remonte légèrement. L'euro est à 1,1315 face au dollar.
Et la Bourse de Paris a, elle, terminé la séance en légère baisse, Didier, dans un marché encore prudent.
Oui, moins 0,49%. Le CAC 40, 4 816 points. Après une ouverture en forte baisse, c'est quand même remonté un petit peu à l'image de Wall Street. D'ailleurs, au fil des minutes de cotation, on a limité la casse. Les variations en séance étaient quand même très violentes, très fortes. Beaucoup d'incertitudes sur certains dossiers comme Veralia, le producteur d'emballage en verre, perd 4,5% et envisage un plan de départ. Le groupe va consulter les représentants du personnel. Et puis Air France, KLM retombe de 4% avec Sodexo aussi dans les services donc aux entreprises. Sodexo recule de 2,5%. Le titre sortira du CAC 40 le 22 juin prochain. Et Goldman Sachs a dégradé le dossier du coup à la vente. Sodexo perd 2,5% ce soir à la clôture.
Exception du jour, l'équipementier Valeo qui est remonté de plus de 4%.
Oui, 22,87 €. Forte hausse, l'équipementier automobile a profité d'une recommandation de Bank of America qui est repassée à l'achat en relevant son objectif de cours de 12 à 27 euros. L'analyste insiste sur l'avance du groupe sur le créneau en particulier de la voiture électrique. Donc Valeo en profite en hausse de 4% ce soir à 22,87 €. Sur les autres places financières, pas beaucoup d'écart finalement, beaucoup de prudence à l'image de ce qui s'est passé à Paris. Francfort, moins 0,3%, Madrid, moins 0,5%, Londres, moins 0,6%, et donc le CAC 40 en repli de 0,49%, 4 816 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamo de boursier.com. Il Il est temps de retrouver l'invité Écho. Carole Ferry, vous recevez ce soir le PDG de Wicar.
Benoît Sineau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Wicar, plateforme de location de voitures entre particuliers. Vous n'avez pas arrêté pendant le confinement de fonctionner. On imagine que la période a toutefois été assez calme. Est-ce que vous avez un retour de la demande depuis le déconfinement?
Alors effectivement, bien qu'on ait laissé la plateforme en ligne pendant le confinement, l'activité est pratiquement tombée à zéro, ce qui est bien normal au vu du respect des règles de distanciation et autres règles qui nous avaient été imposées. Et depuis que le déconfinement a été annoncé, donc dès que le déconfinement a été annoncé, on a effectivement vu un redémarrage extrêmement rapide des demandes, de la demande, en deux temps d'ailleurs, un premier temps jusqu'au 2 juin, et puis une accélération depuis le 2 juin qui fait qu'aujourd'hui, on est de nouveau sur des croissances importantes par rapport à l'année dernière, puisqu'on était ce week-end, vous voyez, à plus de 60% de croissance par rapport au même week-end l'année dernière.
En fait, vous avez ressenti le besoin de liberté en fonction des annonces, quoi. Il y a les 100 km, après la fin des 100 km, etc. Vous avez senti cette progression?
Ça a exactement été ça. Dès que le déconfinement a été annoncé, la possibilité d'un déconfinement, on a commencé à voir les locations redémarrer. Je pense que les gens avaient été enfermés depuis longtemps et étaient impatients de se projeter au moins sur des longs week-ends au mois de juin, voire sur les vacances d'été. Et puis, à partir du moment... Et donc, jusqu'aux 100 km, on a réatteint les niveaux de l'année dernière, avec des locations évidemment plus courtes en termes de distance, puisqu'on était limité à 100 km. Et depuis que les 100 km ont été levés, là, on revoit des locations avec une anticipation plus forte d'ailleurs que les autres années. Les gens, d'habitude, réservent en juin avec 2 ou 3 semaines d'anticipation. Là, on est vraiment... Il y a des gens qui réservent déjà beaucoup pour août, par exemple. Donc, les gens se projettent et pour des distances beaucoup plus longues, puisqu'on est en moyenne à 500 ou 600 km aujourd'hui.
Alors, je crois que vous n'avez aucune obligation sanitaire, contrairement au VTC ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous avez quand même des choses qui sont mises en place?
Oui, bien sûr. Alors, nous, on est effectivement une plateforme d'intermédiation. Donc notre rôle, c'est d'accompagner nos utilisateurs qui souhaitent se louer des voitures entre eux. Par contre, effectivement, dans ce rôle d'accompagnement, on a vraiment un rôle de conseil. Donc on a déjà énormément de communications qui partent auprès des deux cibles, propriétaires et locataires, pour l'ensemble des respects des gestes de barrière, un certain nombre de conseils même sur l'utilisation de notre plateforme, puisqu'on peut faire l'état des lieux en dématérialisation aujourd'hui, ce qui permet de respecter parfaitement les gestes, en particulier de distanciation.
Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est que ça se passe plutôt bien.
Ça se passe très bien. Ça s'est même très bien passé aussi pendant le confinement. Il faut savoir que nous, quand le confinement a été décrété, on avait des milliers de voitures sur les routes. Et les locataires qui n'étaient plus en capacité de rendre les voitures aux propriétaires. Et en fait, les gens se sont vraiment, vraiment mis d'accord. Soit de garder la voiture dans un garage pendant la période de confinement, soit de prolonger les locations pour ceux qui souhaitaient. Enfin bref, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entraide, on va dire, et de solidarité. Ouais, ça a été vraiment extrêmement prégnant, et aujourd'hui on le voit également puisque on observe exactement la même chose avec beaucoup beaucoup de solidarité, effectivement c'est le bon mot, entre les locataires et les propriétaires.
Alors je crois que pour ceux qui louent leur voiture, c'est parfois une source de revenus non négligeable. Est-ce que d'abord vous avez des chiffres sur ce que ça peut rapporter à certains?
Bien sûr.
Et est-ce que vous pensez qu'avec la crise qui se profile, vous allez avoir de plus en plus de particuliers qui disent ça peut peut-être me permettre d'arrondir les fins de mois?
Alors effectivement il y a plusieurs choses. Alors déjà en moyenne les propriétaires sur la plateforme font entre 300 et 600 euros par mois. Donc comme vous le dites, c'est quand même une source de revenus complémentaire non négligeable, avec certains qui vont bien au-delà d'ailleurs. Et on observe aussi deux choses. C'est que d'une part, on pense que la voiture va être un moyen privilégié de transport pendant encore un long moment, parce qu'il faut bien comprendre que c'est le seul moyen de se déplacer confiné, la voiture individuelle. Dès qu'on est dans des transports en commun, on est moins confiné, on va dire. Et en plus, effectivement, on a cette tendance de fond qui n'est pas seulement due au confinement, qui date de bien avant, qui consiste à dire qu'il est peut-être temps de consommer mieux, en tout cas la voiture. Et il faut savoir qu'en moyenne, les voitures sont utilisées à peu près 10% de leur temps utile, donc c'est extrêmement faible, alors qu'elles coûtent en moyenne 6000 euros à leur propriétaire, ce qui pour le coup est extrêmement élevé. Et donc les propriétaires, de plus en plus, effectivement, essaient de mettre un peu de rationalité dans tout ça et de se dire, si ça me coûte aussi cher, pourquoi pas la mettre un peu en location pour couvrir une partie de ce coût de possession et faire en sorte que ma voiture me coûte moins cher. Et effectivement, il y a le dernier pan qui est la crise, avec des gens qui potentiellement ont besoin de revenus complémentaires. Et la voiture, pour ça, est vraiment un moyen parfait, puisque vous pouvez la mettre en location extrêmement facilement. Ça prend quelques minutes de déposer sa voiture sur Wicar, et tout de suite, vous pouvez louer votre voiture à n'importe qui.
Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de voitures abîmées, il y a beaucoup de contentieux.
Très peu, en fait. Et ça, je pense que c'est exactement la même chose que sur des plateformes comme Airbnb. Si on s'était imaginé il y a quelques années qu'on pouvait se louer des appartements sans même faire d'inventaire de sortie et d'entrée et qu'il ne se passe rien, ou en tout cas que tout se passe très bien, ben on est un peu dans le même phénomène. Pas toujours, mais enfin, à 99,999% des cas, ça se passe bien. Alors effectivement, on entend toujours les cas qui se passent pas, hein, mais il faut savoir que ce sont des plateformes qui louent des centaines de milliers d'appartements tous les ans, même des millions d'ailleurs. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un engagement extrêmement fort. Les gens se rencontrent, en fait. Et donc, si je vous vois le vendredi soir et que je vous prends votre voiture, j'ai pas envie de vous la rendre le dimanche soir, soit abîmée, soit en mauvais état, soit sale. Ce d'autant plus que je sais que vous avez évalué mon comportement avec votre véhicule, et que moi, je vais évaluer votre véhicule, d'ailleurs. Et on a du coup un cercle assez vertueux qui se met en place, où les gens, sachant que l'engagement est là, que les gens vont pouvoir s'exprimer sur la qualité de la transaction, quelle qu'elle soit, de la location, et bien en fait, ça se passe très, très bien. Il faut savoir, par exemple, je vous donne un chiffre, que le taux de sinistralité sur nos plateformes sont de 30 à 40 fois plus faibles que le taux de sinistralité observé dans la location traditionnelle.
Alors, juste avant le confinement, vous aviez l'intention de vous développer à l'international, en Espagne notamment.
Oui.
Vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors ça, c'est une petite histoire assez cocasse, hein, puisque on était le doigt sur le bouton lancement le mardi du confinement. Donc, on devait lancer l'Espagne le mardi.
Pas de chance.
Ah non, mais vraiment, ça restera dans les annales de Wicar. Et donc, du coup, effectivement, c'est un projet qui est prêt, hein, puisqu'on était prêt à lancer. Et donc, on va lancer courant de l'été. On attend un petit peu que nos activités repartent en France, mais comme on voit que ça repart très, très vite, on va certainement positionner l'Espagne le courant juillet-août.
Donc, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Benoît Sinaud.
Merci à vous.
Excellente soirée.
Bonne soirée.
Merci à vous, Carole Ferry. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Déconfinement, l'emploi repart déjà, titre Le Parisien aujourd'hui en France, avec la photo d'un serveur portant un plateau, masque sur le visage. Selon une étude que dévoile le journal, le marché des offres d'emploi redémarre en France depuis deux semaines, particulièrement en Île-de-France et dans le Grand Est. Travailler plus, Macron déconfine Sarkozy. C'est le titre de Libération, avec au passage un montage photo représentant un mix entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Allez voir, hein, c'est assez bien fait. En reprenant en substance le mantra de son prédécesseur lors de son allocution de dimanche, le chef de l'État s'ancre un peu plus à droite, nous dit le journal. Déconfinement, ce qui va changer pour les entreprises, titre Les Échos. Les protocoles sanitaires vont être bientôt assouplis, selon le ministère du Travail. Le patronat prône une simplification drastique des mesures de distanciation. Industrie, la France face au défi des relocalisations pour le Figaro. Emmanuel Macron souhaite bâtir un nouveau modèle économique qui favorise une réindustrialisation du pays, une promesse difficile à mettre en œuvre dans la réalité. Histoire, Macron à la mémoire qui tangue, titre pour sa part L'Opinion. S'il ne ferme pas la porte à un geste fort sur la colonisation et le racisme, le président de la République peine à répondre à la contestation d'une partie de la jeunesse, écrit le journal. Et puis enquête sur une pénurie, à la une du journal La Croix. Pourquoi la France a-t-elle manqué de masques? C'est l'une des questions sur lesquelles se penchera la commission d'enquête parlementaire qui commence ses travaux demain. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et je vous rappelle la dernière information de cette soirée. Le second tour des élections municipales est reporté en Guyane en raison de l'épidémie de coronavirus, mais il est maintenu pour le 28 juin à Mayotte. Voilà pour l'essentiel. Très très belle soirée à vous à l'écoute d'Europe 1. Je vous retrouverai à 23h pour un prochain point sur l'info. D'ici là, c'est votre libre antenne, bien sûr, avec vous Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
À tout à l'heure et très belle émission à vous.
À tout à l'heure.